Voilà, je commencerai volontiers par rappeler cette phrase d'Averroès dans sa réponse à Razali. Razali est le théologien qui a déclaré la fin de l'interprétation. Et quelques décennies après, Averroès écrit un discours décisif en disant notamment « L'interprétation est le dépôt qui fut donné à l'homme et dont l'homme se chargea, alors qu'en furent effrayés tous les êtres. » Pour lui, c'est une mission de confiance. Et en effet, si nous n'interprétons pas, qui le fera ? Je me permets de rapprocher cette idée de celle de Castoriadis qui dit, au fond, l'éradication du sens, c'est l'utopie du XXe siècle. Alors, on est en train de réaliser cette utopie au XXIe, c'est ce qu'on appelle la lecture industrielle, qui est en fait le déchiffrement par des automates de façon à pouvoir, de l'ensemble de votre corpus, de façon à pouvoir vous proposer le lien sponsorisé qui vous permettra de passer à l'acte d'achat. Pour ce faire, on n'a pas besoin de votre interprétation, bien entendu. Alors, je ne vais pas rappeler cette banalité maintenant que pour l'ensemble des disciplines, et notamment les sciences humaines, sociales et les humanités, la constitution, le recueil, l'exploitation de corpus numériques constituent une chance. De toute façon, on est obligé de passer par là, mais en même temps, dans la mesure où l'accumulation des corpus a toujours, depuis la bibliothèque d'Alexandrie, permis des progrès dans nos disciplines et a même permis de les fonder pour certaines. C'est un lieu d'interaction entre des disciplines séparées. Je pense à la Text Encoding Initiative. Il y a la bibliothèque Roberts de Toronto. On publie deux revues. Computers and the Humanities and Computational Linguistics. Ces deux revues correspondent à deux collectivités scientifiques complètement différentes qui ne s'étaient jamais rencontrées pendant des décennies jusqu'au jour où on a dit « Mais sous quel format va-t-on échanger les textes numériques ?» Et à ce moment-là, les gens des humanités et ceux de l'informatique ont été obligés de se rencontrer. Parce que, évidemment, là, pour les gens de l'informatique, la notion de texte n'a aucune consistance, celle de genre non plus, etc., alors que c'est le pain quotidien des gens des humanités. Cette rencontre a eu des effets, évidemment, révélationnels, si bien d'ailleurs que dans le milieu du traitement des corpus, silencieusement, au milieu des années 90, les gens des humanités l'ont emporté de fait sur les gens de la linguistique computationnelle, tout simplement parce qu'on a affaire à des textes, voire à des œuvres, alors que la linguistique computationnelle s'arrête traditionnellement à l'empan de la phrase. On peut regretter la séparation croissante entre une herméneutique philosophique qui s'est éloignée des textes, c'est le cas de l'herméneutique disons heideggerienne, et une philologie qui a été tentée par le positivisme et qui le reste souvent. Et par ailleurs, les linguistiques formelles et cognitives ont élaboré des modèles partiels en abandonnant la méthodologie historique et comparative qui est propre aux sciences de la culture. En revanche, la linguistique de corpus a développé une philologie numérique. C'est bien trouvé obligé de revenir à ces questions-là. Quelles métadonnées on va mettre ? Qu'est-ce qu'un genre ? Etc. Et se voit confronté, par ailleurs, à l'herméneutique des sorties logicielles. Comment interpréter un tableau de chiffres ? Ça fait maintenant partie des problèmes herméneutiques majeurs. Il reste a élaboré un modèle du texte qui rend compte non seulement de la sémiosis textuelle comme appariement entre plan du contenu et de l'expression, mais encore des pôles du point de vue génétique et herméneutique et de la garantie tant pour le contenu en termes de légitimité que de l'expression en termes d'authenticité. C'est des problèmes qui ne se posaient pas du tout en linguistique, et qui d'ailleurs se posent encore très peu, mais qui, dès qu'on a affaire à des documents, se posent immédiatement. L'enjeu est d'articuler la linguistique interne et la linguistique externe, ce que, en fait, la pragmatique ne permet pas. Et d'autre part, de réconcilier la philologie et l'herméneutique, l'herméneutique étant une science de l'esprit traditionnellement, et la philologie, une science de la lettre. Or, cette séparation entre la lettre et l'esprit, vous la connaissez bien, puisque les littéraires, hier soir, se trouvaient réunis au grenier, tandis que les linguistes étaient à la cave. Et, par bonheur, l'évolution de la soirée a fait que tout le monde est allé danser à la cave. Ce qui montre bien que, finalement, il y a une résistance de la lettre et que c'est dans cette rencontre qu'on appelle la sémiose que se situe notre avenir. L'enjeu, c'est d'ailleurs rappelé dans l'ordre même de l'intitulé du colloque, document, texte, œuvre, et de réconcilier la philologie et l'herméneutique. Puisque, en fait, le document est une notion philologique, le texte une notion linguistique et l'œuvre un objet de l'herméneutique. Et la sémiosis textuelle, l'appariement entre expression et contenu, semble le lieu privilégié pour comprendre et décrire les articulations de ces niveaux d'objectivité, en même temps que les relations entre les disciplines qui s'y attachent. Donc il ne s'agit pas ici d'une interdisciplinarité qui consisterait à augmenter la culture scientifique des scientifiques, ou la culture littéraire des scientifiques, ou la culture scientifique des littéraires. Il ne s'agit pas non plus de l'interdisciplinarité qui consiste à errer dans des confins, il s'agit de se rencontrer sur des objets, parce que c'est un enjeu à la fois c'est l'objet d'une demande sociale et en même temps c'est un enjeu de développement ou de survie, comme vous voudrez, de nos disciplines. Alors je passerai sur l'évolution même de la notion de document. Je ne vais pas vous rappeler ce que c'est qu'un texte. Mais je voudrais insister quand même sur, dans la mesure où les textes sont des actes qui portent des valeurs, tant éthiques qu'esthétiques, comment certains textes deviennent-ils des œuvres, sont-ils élaborés, interprétés et transmis pour acquérir un statut particulier. Cette question se pose hors de toute monumentalisation et de toute canonisation, qu'elle soit académique, juridique ou religieuse. Et elle engage la transmission et non plus la communication. Ce sont deux mondes finalement différents. Elle s'ouvre ainsi sur une sémiotique des cultures par la médiation de la sémiotique des textes, c'est-à-dire comment caractériser de ce point de vue-là l'ensemble des objets culturels, puisque toutes les disciplines ont affaire à des documents qui ne sont pas nécessairement textuels, et toutes les disciplines s'affrontent à des œuvres qui ne sont pas non plus nécessairement textuelles. Alors, pour cela, bien entendu, il faut sortir du régime spéculatif. Il y a une bulle spéculative dans les sciences humaines. Il y en a eu une très, très forte en sémiotique, mais aussi en linguistique, on a cessé et on ne cesse toujours pas de multiplier des modèles partiels, tous plus révolutionnaires les uns que les autres. Et une révolution épistémologique tous les 5 ans, c'est un peu beaucoup. Alors, bien entendu, il s'agit de stratégies académiques, mais malgré tout, la confusion qui en résulte est fort grande. Alors, deux principes de réalité s'imposent pour limiter le principe de plaisir théorique. D'abord, un principe philologique, il faut établir le texte. Et on voit que ce n'est pas si simple que ça. Le situer, déterminer son authenticité, on a vu ça à propos de Saussure, hein, c'est ce que disait Schlegel, ou à propos de Bakhtin, qui est une légende, mais on a vu ça à propos du cours de linguistique générale de Saussure. Comme disait Frédéric Schlegel, il est inutile d'interpréter les textes inauthentiques. Ça pose des problèmes, évidemment, d'emblée éthique, hein, quelle est la déontologie qui permet de déterminer si un texte est authentique. Et ces étapes sont caractéristiques, hein, ces questions, puisque sont caractéristiques de nos disciplines, puisque dans nos disciplines, les données, c'est ce qu'on se donne. Hein, dans les big data, qui devient une discipline, hein, les big data, moi, vous êtes où ? Moi, je suis dans les big data. Les données, c'est ce qu'on prend, c'est ce qu'on vous prend d'ailleurs. Hein. Enfin, je veux dire, vous êtes tous dans les big data. Mais la question de l'authenticité, évidemment, ne se pose absolument pas. On pense que plus il y aura de données dont on ignore la provenance, du moment qu'elles sont suffisamment nombreuses, tout va bien. D'où, c'est pour ça qu'il y a des tas de colloques, le web comme corpus, etc. Que faire émerger du web ? C'est aussi une décharge publique, vous voyez. Enfin, c'est un peu comme les débris de satellites qui nous entourent. Enfin, il y a ce qu'on fait émerger, c'est que, par exemple, Leonardo est fortement associé à DiCaprio. Vous voyez, des choses comme ça. Et bon, ça, on le savait. Hein. On le savait. Et puis, complémentairement au principe philologique, un principe herméneutique, mais étendu à l'herméneutique matérielle, c'est-à-dire à une herméneutique philologique qui, maintenant, est instrumentée. Il y a pas de mal à ça. Hein. C'est quelque chose de nouveau. De ce point de vue-là, interpréter n'est pas déchiffrer une suite de caractères déjà donnés, c'est hiérarchiser et faire varier les modes de production de sens à tous les niveaux de l'analyse. Vous voyez, c'est cette dimension critique qui est évidemment, par définition, absente des déchiffrements industriels. Et ces deux principes de réalité permettent de quitter le domaine du transcendantal, fût-il cognitif, qui nous a beaucoup occupés hein, dans les siècles qui précèdent, de façon à accéder à l'empirique d'une manière renouvelée. Alors, dans cette situation, somme toute favorable, un agenda pourrait proposer un moratoire sur les modèles partiels pour restituer la complexité des textes, une rupture avec les représentations ontologiques et référentielles, de façon à permettre une reconception praxéologique de l'activité textuelle. Je veux dire, un texte, c'est un acte. C'est-à-dire, que fait la seconde page ? Elle réécrit la première, mais en la transformant. Ça, c'est un acte. Une typologie des normes discursives, génériques et stylistiques qui permettent de décrire la variété des régimes génétiques, mimétiques et herméneutiques des textes. Et là, on en a beaucoup parlé au cours de ce colloque, puisque la question des genres, notamment, est revenue dans beaucoup d'exposés. Enfin, un réexamen des unités textuelles pour pouvoir caractériser les transformations entre passages tant au sein du texte qu'entre textes du même corpus, et une reconquête, je voudrais insister là-dessus, enfin, du plan de l'expression textuelle permis par une réflexion sur le concept de document nécessaire au traitement des documents numériques. Le document est une partie de l'expression du texte. Hein. Et le rapport texte-document est aussi, c'est déjà une forme de la sémiose, d'une façon qu'il faudrait discuter plus en détail. À mon avis, ces orientations pourraient permettre une synthèse renouvelée entre linguistique, philologie et herméneutique, alors que, je veux dire, Denis Letrace, hein, deuxième, troisième siècle avant Jésus-Christ, dit, au fond, la plus belle partie de la grammaire, et la plus importante, c'est la critique des œuvres. Bon, les grammairiens ont tout repris à Denis Letrace, sauf cette section. C'est dommage. Hein. Il faut voir que les sciences du langage sont des disciplines auxiliaires de la lecture des textes. Elles ont été faites pour ça. Pourquoi Alexandrie ? Ben parce qu'on avait la bibliothèque, il s'agissait de la lire. Donc, ces disciplines sont noblement auxiliaires, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez, tandis que maintenant, les textes gênent. Hein. On m'a même dit, tu travailles beaucoup sur les textes. C'est allemand, ça, les textes. Hein, vous voyez, c'est quelque chose de long, complexe, fumeux, etc. Bon... Je crains qu'avec l'évolution de l'Europe, cette opinion ne s'implante en France. On pourrait d'ailleurs formuler l'hypothèse que la sémiosis textuelle s'établit par l'élaboration parallèle du document d'une part, d'un projet d'œuvre de l'autre, et en paraphrasant Saussure, dire que les deux chaos initiaux, en s'unissant, donnent lieu à un ordre complexe qui est celui de la textualité. Bon, ça c'est un peu une provocation, mais... Elle reste discrète, vous en conviendrez. Et si on prend au sérieux cette distinction problématique, mais nécessaire, en tout cas problématisante, entre documents, textes et œuvres, puisque actuellement on ne traite pas des œuvres et on traite des textes en termes de documents. Il y a une surdocumentarisation. Les documents sont d'ailleurs réduits à leurs métadonnées. On n'accède plus qu'à leurs métadonnées. Les métadonnées servent à oublier les données, de la même façon que les documents ont servi à oublier les textes et que les textes ont servi à oublier les œuvres. Il est nécessaire de distinguer, tant pour les documents, les textes et les œuvres, les régimes génétiques, les régimes d'accès, les régimes d'objectivation, les régimes de parcours et enfin les régimes de transmission. Et pour ces trois niveaux, documents, textes et œuvres, ces régimes diffèrent profondément. Je rappelle simplement, sans détailler, ces régimes génétiques qui sont bien différents. Les régimes d'accès, il y a eu des travaux d'ailleurs, des passages remarquables dans certains textes d'Hermant sur cette question des régimes d'accès qu'on avait un peu oubliés mais qui sont renouvelés par tout simplement la question des mots de passe. L'accès à l'œuvre étant subordonné à des stratégies d'écriture que l'opposition entre l'ésotérique et l'exotérique ne suffit pas à détailler. Vous voyez, chaque œuvre non seulement crée son public, mais parfois crée des étages, des cercles différents au sein de son public. Et de ce point de vue-là, passer d'un étage à l'autre, c'est déjà une forme d'éducation. Ceux qui ne seront pas tombés dans les premiers panneaux pourront arriver à d'autres endroits où les choses vont devenir plus intéressantes encore. L'art d'écrire, en général, peut se concrétiser. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'art d'écrire ne consiste pas seulement, comme le pensait Léo Strauss, à se protéger contre une répression, mais à protéger l'œuvre contre les lectures superficielles. La question des régimes de parcours aussi mérite l'attention. Il importe de distinguer le déchiffrement du document, la lecture du texte, et enfin l'interprétation de l'œuvre. Sachant que les parcours interprétatifs des œuvres ne sont ni uniques, ni linéaires, ni déterministes, ni séquentiels, ni même connexes. Ce qui rend le problème angoissant et on préfère l'oublier. De ce point de vue-là, l'œuvre transmet des questions, voire des énigmes, non moins que des informations. Elle est illisible tout simplement parce qu'elle n'entre pas dans le paradigme communicationnel. Hein. N'oublions pas que le principe de pertinence universellement applaudi par les linguistes consiste à dire que plus une interprétation est simple, meilleure elle est. Hein. J'ai fait l'expérience, j'avais été invité à un colloque d'herméneutique de l'université de Neuchâtel, université religieuse bien sûr, hein. Et tout le monde était sperbérien. Hein. Vous voyez, sur l'évangile, ça donne des résultats délicats. Et alors, il y avait un... Il y avait un vieux de la vieille à côté de moi. Alors, on était dans des ateliers d'interprétation. Enfin, j'avais fait une conférence pour dire qu'au fond, l'interprétation à la puissance n'était pas toujours la meilleure. Ça n'avait pas beaucoup plu. Et alors, donc, quand il y a une contradiction, on dit « mais ah non, c'est un autre rédacteur ». Vous voyez, donc, le début de la phrase, c'est un rédacteur. Et donc, comme ça, tout est clair. Alors, avec mon voisin, on a fait un complot. Je dis, mais il doit bien y avoir quelque part dans les évangiles des endroits où Jésus interprète ses propres paraboles. Il me dit, oui, il y en a trois. Alors, on a regardé. Et en fait, il en rajoutait une couche. C'était beaucoup plus obscur dans son interprétation que dans le texte. Et ça, je pense que c'est une grande leçon sur l'herméneutique. Hein. Ça... On cherche des sources, mais il y en a là aussi, de ce point de vue-là. Enfin, en tout cas, les conceptions iréniques de l'interprétation arrivent à un aplatissement phénoménal. Bon, le littéralisme a un grand avenir. Hein. Razali était un littéraliste. Pourquoi ? Ben parce que... C'était un vizir, hein, et donc il disait l'homme est mauvais, donc les sujets doivent obéir aveuglément au calife. Et bon, ben, obéir aveuglément au calife et lire selon la lettre, c'est exactement la même chose. Je laisse cette question en suspens. Alors sur les régimes d'objectivation, on pourrait faire le même type de remarque, sur les régimes de transmission également. Au fond, pourquoi aime-t-on tant ne pas interpréter? Bien, il s'agit de remplacer l'interprétation par la lecture. D'abord, l'interprétation pose des problèmes éthiques et esthétiques. Il faut des jugements de valeur. En critique littéraire contemporaine, jamais on ne porte de jugement de valeur. Tout se vaut. Du moment que c'est dans le canon, il est impossible de dire « cette page est meilleure que celle-là » ou « ce livre est meilleur que celui-là ». On ne voit pas ça. Et puis, donc remplacer l'interprétation par la lecture et ensuite la lecture par le déchiffrement, ce qui élimine toute complexité et met fin à toute rationalité critique, ce qui est l'objectif de ce qu'on appelle la science normale. Hein, la science normale, c'est comme dans l'entreprise, ce qu'on sait faire, on le fait. Hein, on a des produits, des clients et hardi petit.